une bagarre dans le village d'Astérix. Une de plus, déclenchée par une remarque du forgeron sur la fraîcheur des poissons de son voisin Ordre Alphabetix. Pourtant, le poissonnier du village est très fier de son fournisseur. En effet, bien qu'il habite un village en bord de mer, il s'approvisionne chez les meilleurs grossistes de Lutèce, d'où il est livré en char à bœuf. Pas étonnant que la fraîcheur de ses poissons fasse l'objet de railleries. Le coup de poisson pas frais à travers la figure est devenu un grand classique des disputes gauloises. Mais faisons un petit saut dans le temps et retrouvons-nous au Moyen-Âge. Les historiens connaissaient le commerce du poisson à travers l'Europe, notamment celui de morue séchée, mais dans bien des cas, les sources d'approvisionnement restaient à préciser. En 2016, des scientifiques ont réalisé la prouesse de localiser la provenance d'arêtes de morue excavées de sites archéologiques. En d'autres termes, de quelle population de morue provient une arête trouvée dans les poubelles moyenâgeuses? Comment est-ce possible? Les ossements de la morue atlantique, Gadus morua, ne sont ni très durs ni très denses. Ils sont même plutôt fins et poreux et conservent très bien l'ADN. Suffisamment bien pour que l'on puisse comparer le matériel génétique des morues médiévales avec celui des morues modernes qui nagent dans l'Atlantique. Cette comparaison permet d'établir une sorte de passeport génétique pour chaque morue médiévale. Que nous disent les passeports? Sur 5 sites archéologiques médiévaux d'Allemagne, de Norvège et d'Angleterre, les morues sont issues de populations réparties dans le nord-est de l'Atlantique arctique. En d'autres termes, autour de l'an 1000, la morue séchée venait de loin et circulait un peu sur le mode des chars à bœufs d'ordre alphabétique. Ce gars-là avait du flair, celui du commerce du futur. Avançons au XVIe siècle. Avec la colonisation du Canada, les Français de toutes les couches de la société s'enticheront d'une morue d'origine encore plus lointaine, celle de Terre-Neuve. Puis au XVIIIe siècle, après la perte du Canada ratifiée en 1763, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon fut âprement disputé entre Anglais et Français. Il faut dire qu'il donnait accès à de foisonnants bancs de morues atlantiques. Au XIXe siècle, on pourrait évoquer les pêcheurs d'Islande célébrés par Pierre Loti. Le cabillaud, qui est l'autre nom de la morue, a ainsi été de plus en plus fréquent sur nos tables, jusqu'à devenir notre poisson préféré. Mais ce n'est pas sans conséquence. Poisson carnivore à croissance lente, la morue atteint sa maturité sexuelle vers 6 ans, et elle a beau être prolifique, une femelle pond des millions d'œufs, on comprend bien que la pêche finit par se heurter aux limites des stocks. En 1992, les stocks de morue autrefois très abondants s'effondrent brutalement à plus de 99%. Le gouvernement canadien instaure un moratoire, mais près de 30 ans plus tard, les morues peinent à revenir. Un nouvel écosystème est installé et d'autres poissons ont pris leur place. Comme sur l'étal d'ordre alphabétique, la morue à l'œil bien terne, sa population atlantique, exploitée 5 siècles durant, est quasiment anéantie.